d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel, du jeudi 21 juin 2018. Eric Manirakiza en direct de Washington. D'abord, les principaux titres. Au Nigeria, deux femmes kamikazes ont tenté d'attaquer un marché proche d'une base militaire à Maïdougouri. 15 personnes ont été blessées. Dans le nord de la République centrafricaine, des affrontements meurtriers ont opposé deux groupes armés qui sont d'ordinaire alliés. Rencontre aujourd'hui à Addis Abeba entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar qui se sont déjà vus hier soir. L'armée égyptienne affirme avoir tué 32 djihadistes dans le Sinaï. Et le pape François à Genève pour promouvoir le dialogue et l'unité avec ses frères protestants et orthodoxes. Dans 10 minutes, votre rendez-vous du journal du Mondial 2018 en Russie. L'Argentine est menée par la Croatie en 0-0. Et la France est le deuxième pays qualifié pour les huitièmes de finale après la Russie et l'Uruguay. Vous aurez les détails d'ailleurs à Kouba Ouedraogo. Dans le nord-est du Nigeria, 15 personnes ont été blessées par deux femmes kamikazes qui ont tenté d'attaquer un marché proche d'une base militaire. Le point avec Morgane Guiriek.
Des soldats ont tiré sur une femme qui tentait d'entrer dans le marché près de la base d'artillerie de Maïdougouri. Edette Okon, porte-parole de l'État de Borno, précise que les explosifs qu'elle portait ont détonné quand elle a été touchée par les tirs. Une autre femme s'est fait exploser dans un rickshaw, tricycle utilisé dans les transports publics. Les deux femmes sont mortes sur le coup et 15 personnes ont été blessées. Les marchés sont souvent la cible d'attaques suicides, souvent menées par des femmes ou des jeunes filles. Lundi, 9 soldats ont été tués à Maïdougouri lors d'une attaque attribuée à Boko Haram. Et les fêtes de la fin de Ramadan ont aussi été endeuillées par plusieurs attaques qui ont fait au moins 43 morts.
Morgane Guiriek, un projet de résolution de l'ONU préparé par la France exhorte le Mali à réaliser des progrès substantiels vers la paix. Le texte renouvelle pour un an la mission de sa force de casquet bleu dont la sécurité devra être renforcée. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies devraient l'adopter d'ici fin juin. La MINUSMA compte quelques 15 000 casquets bleus et 104 militaires ont été tués depuis leur déploiement en 2013. Le gouvernement ivoirien a expulsé tous les habitants qui vivent dans des zones à risque à Abidjan. Les inondations ont fait 18 morts dans la nuit de lundi à mardi en raison de pluies torrentielles. 138 familles ont été sinistrées dans ces inondations dans tout le pays. Ces pluies exceptionnelles étaient d'un niveau 5 fois supérieur au seuil d'alerte. En Centrafrique, je vous le disais dans les titres, des affrontements ont éclaté hier soir à Ndélé, dans le nord du pays. Ces combats entre deux groupes armés issus de l'ex-rébellion Séléka dominante musulmane ont fait plusieurs morts, n'est-ce pas, Idriss Fall?
Selon Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique FPRC et le mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC ont combattu durant une heure. Depuis, la situation s'est calmée, a-t-il ajouté. Il n'y a pas de bilan précis, mais des témoins affirment que plusieurs civils et combattants ont perdu la vie. Des mésententes entre Arabes et Rungas, les deux groupes ethniques associés au MPC et FPRC, ont dégénéré en affrontements. Ndélé est l'une des bases du FPRC présent dans le nord-est du pays, tandis que le MPC est établi dans le nord-ouest le long de la frontière avec le Tchad. À la mi-avril, ces deux groupes armés d'ordinaire alliés avaient tenu une réunion à Kagabandoro pour mettre en place une coordination militaire. Ils avaient même menacé de descendre sur Bangui à la suite des affrontements meurtriers à PK5, le quartier musulman de Bangui.
Des détails de Idriss Fall. Au Tchad, magistrats, avocats et notaires, huissiers de justice ont annoncé qu'ils arrêtaient leur mouvement de grève entamé fin mai. Ils protestaient contre des violences dont un avocat et ses clients avaient été victimes dans le sud du pays. La RDC perd 15 milliards de dollars par an en raison de la corruption qui mine ce pays, a affirmé un conseiller du président Joseph Kabila. Le budget 2018 de la RDC s'élève à environ 5 milliards de dollars et la moitié est financée par des partenaires de Kinshasa. La grande majorité des 70 à 90 millions de Congolais vit dans la pauvreté. Le Japon a alloué un montant de 700 000 dollars au Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour lutter contre le virus Ebola en RDC. Aucun nouveau décès ni nouveau cas n'a été enregistré depuis plusieurs jours. La justice française a confirmé aujourd'hui le non-lieu accordé à Wenceslas Munyeshaka, un prêtre rwandais installé en Normandie. Il était visé par la plus ancienne plainte en France concernant le génocide de 1994 au Rwanda. Rencontre aujourd'hui dans la capitale éthiopienne entre les dirigeants de l'Afrique de l'Est pour donner une nouvelle impulsion au processus de paix au Soudan du Sud. Le premier tête-à-tête en deux ans entre le président soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar a eu lieu ce mercredi soir. Ils ont répondu à l'invitation du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, président de l'IGAD, qui œuvre à réactiver le processus de paix. D'après l'armée égyptienne, 32 djihadistes ont été tués dans le Sinaï. C'est le bilan de l'opération lancée depuis février contre la branche locale du groupe État islamique. Irénée Herman Ngbo a les détails.
L'offensive lancée par l'armée égyptienne a permis d'exterminer 32 éléments de la branche locale du groupe État islamique dans la province du Sinaï. Selon l'armée égyptienne, en dehors de ces takfiris, ce qualificatif pour désigner les djihadistes, 12 autres ont été arrêtés. Les forces de sécurité ont également saisi des armes et des munitions dans des repères et dépôts des djihadistes. L'armée mène depuis le 9 février une vaste opération baptisée Sinaï 2018 qui vise à nettoyer le nord et le centre du Sinaï du terrorisme. La péninsule est le théâtre d'une insurrection d'une branche locale du groupe État islamique. Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné 3 mois à ses forces de sécurité pour rétablir la sécurité dans la région. Ce délai a été depuis prolongé.
L'Égypte défend un règlement juste et global du conflit israélo-palestinien. Le président Abdel Fattah al-Sissi l'a signifié aux émissaires du président américain Donald Trump en tournée au Moyen-Orient. M. Sissi a défendu la solution à deux États sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État de la Palestine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pape François a prôné à Genève l'unité des chrétiens opposés aux guerres et aux divisions qui affectent les plus faibles dans le monde après une prière commune aux côtés de protestants et d'orthodoxes. Le souverain pontife a accepté une invitation du Conseil œcuménique des églises qui fête ses 70 ans et représente 350 églises et quelques 500 millions de protestants et d'orthodoxes. Le point avec Lionel Lunaniragahima.
Accompagné dans la chapelle du Centre œcuménique de Genève, l'évêque méthodiste américaine Mary Ann Swenson a participé à son arrivée à une prière œcuménique aux côtés de 230 participants, le pape François. Que les distances ne soient pas des excuses, il est possible de marcher selon l'esprit, prier, évangéliser, servir ensemble. C'est possible à partir d'aujourd'hui. Ça devrait plaire à Dieu. C'est notre chemin aujourd'hui. François a déploré une planète où les enfants et les personnes âgées deviennent des déchets dérangeants. Les rapports désormais plus apaisés avec les orthodoxes et les protestants s'inscrivent dans le contexte de persécutions ou des attaques terroristes contre des chrétiens, notamment au Proche-Orient.
Lionel Gahima et le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé aujourd'hui en Russie pour rencontrer demain le président Vladimir Poutine. Le dossier nord-coréen est sur l'agenda. Et le conseiller américain à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, se rendra la semaine prochaine à Moscou. C'est pour évoquer une possible rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. Un vote clé sur une réforme de l'immigration aux États-Unis a été reporté à vendredi à la Chambre des représentants. Elle est censée mettre un terme définitif aux séparations controversées de familles de migrants sans papier. Majoritaire au Congrès, mais divisée sur le sujet, les Républicains avaient soumis 2 textes au vote aujourd'hui. Le premier, qui reflète les positions les plus dures du parti, a été rejeté comme attendu en début d'après-midi. Prévu en fin de journée, le vote sur le second texte, qui tente de rallier aile dure et modérée, est reporté. Le président américain a mis fin à la séparation des familles à entrée illégale aux États-Unis dans un décret signé hier. Et Melania Trump s'est rendue à la frontière avec le Mexique pour une visite surprise à des enfants sans papier, un émissaire d'un président américain qui tente de regagner l'opinion publique, profondément choquée par sa politique de séparation des familles de clandestins. Et le ministère américain de la Santé a demandé au Pentagone de se préparer à héberger sur des bases militaires 20 000 enfants migrants entrés sur le territoire américain non accompagnés par des adultes. Le Portugal enverra une équipe en Égypte pour sélectionner des candidats à l'asile en juillet. D'ici l'année prochaine, le pays est prêt à accueillir 1010 personnes. Lisbonne répond au programme de réinstallation de réfugiés voulu en janvier par la Commission européenne. Et le président français Emmanuel Macron a défendu sa politique migratoire médiane. Il a dénoncé la lèpre qui monte en Europe, le nationalisme qui renaît. Voilà pour le journal. Maintenant, c'est la place au Mondial 2018 qui se déroule en Russie avec Yacouba Ouédraogo. Et la Croatie mène actuellement 2-0 devant l'Argentine. Suivez.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du Mondial. Une courte victoire pour les Bleus lors de leur deuxième sortie contre le Pérou, 1-0, suffisant pour les propulser en huitième de finale, avec à la clé un record pour l'unique buteur de la rencontre. À 19 ans et demi, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur, Coupe du Monde ou Euro. Mbappé a marqué de près à la 34e minute après une frappe d'Olivier Giroud déviée par un pied pérouvien. L'attaquant du PSG a inscrit ainsi son 5e but en 17 sélections. Avant ce match France-Pérou, toujours dans le groupe C, le Danemark et l'Australie ont fait match nul 1-1. Christian Eriksen a ouvert le score pour le Danemark dès la 7e minute d'une superbe volée sous la barre. À la 38e, faute de main dans la surface de réparation danoise, l'arbitre fait recours à la vidéo assistance pour confirmer la faute. Le capitaine australien Mile Jedinak, déjà buteur contre la France, transforme sans trembler pour le 1-1. Un match nul qui permet au Danemark de se rapprocher davantage de la qualification en 8e de finale, avec désormais 4 points juste derrière la France déjà qualifiée. Suivent l'Australie avec un seul point et le Pérou éliminé de la compétition avec ses deux défaites en autant de sorties. Demain vendredi, un représentant africain refait surface pour sa deuxième sortie. Il s'agit du Nigeria de John Obi Mikel. Les Super Eagles n'ont d'autre choix que de gagner pour se donner plus de chances de voir les huitièmes de finale. L'effet climat s'est invité en conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur de l'Islande pense que jouer sous 30 degrés Celsius est plutôt un avantage pour le Nigeria. Haimir Hallgrimsson.
Nous avons joué dans la chaleur contre l'Argentine. C'était une étape difficile. Il fait un peu plus chaud ici. C'est probablement mieux pour le Nigeria que l'Islande, que de jouer dans cette chaleur à cette température. Mais nous penserons à la température pour peaufiner notre stratégie. Tout compte fait, tout le monde doit jouer sous les 30 degrés Celsius, alors nous devrons simplement faire comme tout le monde.
C'était donc Haimir Hallgrimsson, le sélectionneur de l'Islande. Nigeria-Islande, c'est justement à 15h temps universel, puis à 18h, Suisse et Serbes croiseront les crampons. Mais bien avant ces deux matchs, on aura droit à un duel américain-Brésil-Costa Rica à midi temps universel. Touché hier à l'entraînement, la star du Brésil Neymar Junior se dit tout de même apte à jouer. Il ne pense qu'à la victoire. Écoutons Neymar.
Nous avons de grosses attentes pour le deuxième match contre le Costa Rica. Nous espérons faire mieux que nos débuts et nous voulons gagner. Nous allons à ce match pour gagner et jouer très bien.
Un match que va suivre Sepp Blatter, ex-président déchu de la FIFA, invité spécial du président Vladimir Poutine. L'ancien patron du football mondial se sent bien accepté malgré le scandale de corruption qu'il a éjecté du siège du président de la FIFA. Sepp Blatter.
J'étais invité par la Russie pour venir ici et puis ils m'ont fait un programme. Je suis le programme. Alors je suis arrivé, on a vu le match. Je pars sur Saint-Pétersbourg, je vais voir Brésil-Costa Rica et puis après je rentre. Mon président, on me mettait dans une voiture, on me transportait à droite, à gauche et là je suis là-dedans. Je rencontre des Sud-Américains, des Africains, de tout. Et puis ils disent « Ah, mais c'est Blatter, c'est émotion pure. » Et voilà, c'est ce qui est le football. mais ça me fait beaucoup de plaisir de dire, il vit encore, il est encore là. Je me sens un peu suspendu par cette commission d'éthique de la FIFA, mais quand je viens ici, je me sens accepté.
C'était donc Sepp Blatter, ex-patron de la FIFA. Ainsi va le foot, c'est ici que s'achève ce journal du Mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Eric Manilakiza de retour avec vous. Avant de passer à nos dossiers du jour, rappel de score entre la Croatie et l'Argentine, 2-0. Les hommes de Messi sont menés. On est à la 87e minute. Le chef de file de l'opposition nigérienne, Amadou, est déchu de son statut de député national par arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en début de semaine. Cette autre décision de justice concernant l'ancien président du Parlement remet sur la table la question de sa candidature aux élections présidentielles prévues en 2021. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, a recueilli quelques réactions résumées dans ce reportage.
Au niveau du parti de M. Hama Amadou, c'est sans surprise que cet arrêt de la Cour constitutionnelle est accueilli. Bana Ibrahim, un des responsables de la jeunesse du moderne FA Lumana.
Hama Amadou n'a jamais siégé à l'Assemblée, puisqu'il était à l'extérieur quand il a été élu. Il n'a profité d'aucune immunité politique liée à son statut de député. Il n'a bénéficié d'aucun émolument en tant que député. Mais puisqu'on veut continuer le harceler, on va jusqu'à faire une parodie pour pouvoir demander à la Cour, la même Cour qui a rendu un arrêt en 2017, dans laquelle la Cour elle-même a reconnu, lorsqu'il était question d'apprécier le code électoral, que la condamnation par contumace ne peut être regardée comme une condamnation définitive. Donc l'un dans l'autre, ça ne nous surprend pas. Nous sommes dans un pays où nous avons fini depuis longtemps d'intégrer dans notre conscience et dans notre discours qu'il n'y a pas de justice au Niger.
Malgré toutes ces décisions de justice, Hama Amadou persiste et signe qu'il se présentera aux élections à venir, pas plus qu'au mois de mai dernier, à l'anniversaire du parti. Il a réaffirmé cela à ses militants depuis la France où il vit en exil.
Je l'affirme et le réaffirme avec force. Vous m'avez désigné comme votre candidat de 2021. Je serai, par la grâce de Dieu, candidat. Personne sur terre ne saurait l'empêcher ou il sera lui-même empêché. Que rien ne vous inquiète et ne vous perturbe par conséquent.
Pourtant, selon les spécialistes du droit, même sans ce arrêt de la Cour constitutionnelle, une candidature du chef de file de l'opposition à la présidentielle de 2021 est déjà compromise par sa condamnation dans l'affaire du trafic de bébés. Amadou Boubacar Hassan, juriste constitutionnaliste.
Et ce qu'il faut retenir, même si aujourd'hui la Cour n'a pas constaté la déchéance de sa qualité de membre de l'État, à partir du moment où la condamnation est devenue définitive suite à l'arrêt de la Cour de cassation, conformément à l'article 8 du Code électoral, M. Hama Amadou ne peut pas être inscrit sur la liste électorale, a fortiori être éligible. Donc, de ce point de vue, pour les élections à venir, M. Hama Amadou ne peut pas être éligible. Lui, avec ce arrêt de la Cour constitutionnelle, M. Hama Amadou est déchu de son mandat parlementaire. Il n'est plus député et par conséquent, il ne peut plus appliquer tous les droits qui sont attachés à la qualité de député, que ce soit l'immunité et tout ce qui s'ensuit.
Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Croatie vient de marquer son troisième but, 3-0, contre l'Argentine. En Guinée, les personnes handicapées physiques subissent l'absence d'une loi qui le protège. Elles sont victimes de plusieurs formes de discrimination, exposées aux railleries, préjugés et stéréotypes. Si ces personnes sont compétentes, elles ont très peu de chances d'être recrutées. Malgré toutes ces difficultés, certains handicapés s'en sortent, comme le raconte Zakaria Camara à Conakry.
Dans les rues de la capitale ou encore devant les mosquées, de nombreuses personnes à mobilité réduite investissent des espaces pour y mener une activité de mendicité. Elles se disent victimes de discrimination et ne comprennent pas pourquoi aucune loi spécifique ne les protège.
Omar a perdu l'usage de ses membres inférieurs, même s'il ne manque pas de volonté de travailler. Se déplacer reste un calvaire pour lui.
Chacun de nous sont logés très loin, quoi, d'ici, quoi. Le matin, quitter là-bas de se rendre au service, ça, tout à fait problème. Il y a plein d'embouteillages. Et puis, il y a d'autres aussi qui refusent de prendre nos amis handicapés, de les rendre là où ils vont, quoi. Nous avons énormément de problèmes.
Vivre avec un handicap physique à Guinée, c'est souffrir le martyr, dénoncent tous. Ces personnes ne sont pas parmi les priorités des recruteurs en dépit de leurs compétences. Omar est membre d'une association pour la protection des handicapés. C'est dans un conteneur installé en face des bureaux de la mairie de Matoto que différents métiers sont exercés. Devant sa machine à coudre, Makamara n'entend pas se retrouver à la rue. Je fais la couture pour éviter de faire la mendicité. Je préfère vivre de mon métier. Nous faisons beaucoup de choses ici, comme le tricotage. Face au vide juridique, certaines personnes handicapées tentent du mieux qu'elles peuvent pour sortir d'une situation de précarité. Ibrahima Diané est le président d'Action pour le futur des personnes handicapées en Guinée. Selon lui, on peut réussir même avec un handicap physique.
En Afrique, plus particulièrement en Guinée, une fois qu'on est handicapé, donc on est foutu, on n'a pas de droit, on n'a aucune considération. Partout où vous passez, vous verrez les personnes handicapées au bord de la rue pour faire que la mendicité. Mais nous, on s'est dit non, l'handicap n'est pas synonyme de la mendicité. Un handicap n'est pas une fatalité. On peut être handicapé, être utile pour soi, être utile pour ta famille, être utile pour ta nation.
L'ensemble des personnes à mobilité réduite attend l'adoption d'une loi qui devrait corriger une forme d'injustice silencieuse. Conakry, Zakaria Camara, pour VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VO Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le match est terminé, la déroute de l'Argentine contre la Croatie, 3-0. En Côte d'Ivoire, 48 heures après les inondations qui ont fait 20 morts et d'importants dégâts matériels, le président Alassane Ouattara a rendu visite cet après-midi aux sinistrés. Des sinistrés toujours en état de choc, nous dit Georges Ibrahim Tonkara, le correspondant de VOA Africa Abidjan.
Rentré précipitamment mercredi nuit de Paris où il se trouvait, le président ivoirien était ce jeudi sur le terrain pour apporter son réconfort aux victimes des inondations de ce début de semaine. À la Riviera Alaba, l'un des quartiers durement frappés par les averses qui se sont abattues sur Abidjan, les populations ont du mal à réaliser ce qui leur est arrivé dans la nuit de lundi à mardi. Diallo Mariam, la quarantaine révolue, dit avoir tout perdu.
On a tout perdu en fait. On n'a plus rien. 24 ans de vie, il n'y a plus rien. En une nuit, tout est fini. On était sous le manguier de 3h à 7h du matin. On a tout perdu, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État, du président qui est venu vous voir?
Qui nous aide à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ça se répète. Déjà ça, parce qu'il y a, il y a ma voisine qui est décédée, qui a été emportée par l'eau. Et voir ce qu'il peut faire pour nous, parce qu'il y a les enfants, on a tout perdu. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il peut faire.
Hippolyte Kwame est fonctionnaire, assis devant le peu d'objets qu'il a pu extraire des eaux. Il se demande de quoi demain sera fait. Il dit attendre de l'État que des mesures vigoureuses et durables soient prises pour que pareil désastre ne se reproduise plus.
Aujourd'hui, psychologiquement, nous sommes très affectés. Et moi particulièrement, j'ai pratiquement tout perdu. J'ai pratiquement tout perdu, mes parents ils ont tout perdu. Et aujourd'hui, nous sommes complètement abattus. Abattus et très découragés parce que là, il faut reconstruire encore. C'est ce qui nous... C'est en fait, c'est cette crainte-là.
Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État?
Moi, personnellement, comme je le disais à tous les jeunes ici, je leur disais que concrètement, ce que j'attends, c'est qu'il y ait en fait de nouvelles voies de canalisation qui soient ouvertes et qui ne soient pas orientées vers notre cité. Si, au niveau de l'État, ils peuvent essayer d'ouvrir de nouvelles canalisations qui seront orientées ailleurs, ce serait en fait l'idéal pour
au nom. Le gouvernement a annoncé une aide de 2 milliards pour les victimes de ces inondations. De nombreux Ivoiriens sont également mobilisés pour apporter de l'aide aux sinistrés. Il s'agit surtout des vivres, de vêtements, de bouteilles d'eau minérale et des médicaments. Georges Brahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde Joselle Moïse, à la console Tiangang Chang, à la présentation Eric Manuelis. Ainsi va le monde aujourd'hui. La vie vous apporte une seconde chance qui s'appelle demain. N'oubliez pas d'en profiter. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Passez une agréable soirée chez vous. À bientôt.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres aux groupes, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord. Les